Les marchandes de sable capent sur l'Atlantide, comptent des mers et des océans de Roland de Causse, Nanet et Jean-Luc Vézinet, illustration de Nessel D. Les naufragés d'Eyao. Tout au nord de l'archipel des Marquises se trouve une île déserte. En forme de croissant, Eyao, car tel est son nom, est bordée de hautes falaises. Difficilement accessible, couverte d'une maigre végétation et soumise à de fréquentes sécheresses, Eyao est inhabitée depuis longtemps. Pourtant, cet après-midi-là, un voilier avait jeté l'ancre dans la petite baie de Vahitua, où se trouvait la seule plage et l'unique source d'eau potable de l'île. Le navire était dans un triste état. D'un âge respectable, il avait dû bourlinguer de longues années à travers la Polynésie. À sa proue était écrit en lettres délavées « Le fantôme ». Ce vieux navire méritait bien son nom. Une chaloupe fut bientôt mise à la mer. Après avoir débarqué 6 matelots, elle regagna le bateau qui réappareilla aussitôt. Les 6 hommes regardèrent le voilier s'éloigner, puis disparaître à l'horizon. Ils faisaient triste mine. Ils réalisaient qu'ils allaient devoir vivre plusieurs mois seuls et isolés sur ce rocher inhospitalier, brûlé par le soleil et infesté de moustiques. Ils avaient été enrôlés pour chasser les chèvres qui abondaient sur l'île. Chacune de leurs peaux devait leur rapporter quelques pièces de cuivre et ils espéraient en avoir amassé suffisamment lors du retour du bateau pour en obtenir au moins un prix convenable. Contrairement à leurs autres compagnons, certains d'entre eux n'étaient pas là de leur plein gré. Il était coutume à cette époque, pour compléter les équipages, d'embarquer de force quelques matelots désœuvrés traînant sur le port. C'est ce qui était arrivé à Ataroa, un jeune Tahitien qui avait voulu très tôt voir du pays et s'était engagé comme mousse sur le premier bateau en partance. Après plusieurs années à travailler durement sur divers navires, il venait de rentrer à Tahiti, bien décidé à s'occuper de sa vieille mère. C'est alors que pour son malheur, il avait rencontré le capitaine du fantôme. Ce dernier l'avait invité dans l'une des tavernes du port où il avait ses habitudes. Après avoir versé une drogue dans le verre d'Ataroa, il ne lui resta plus qu'à faire embarquer le malheureux jeune homme plongé dans un profond sommeil. Quelques heures plus tard, 2 seaux d'eau de mer déversés sur son visage le firent revenir à lui. Le roulis du navire, le bruit des vagues se brisant sur l'étrave, ne lui laissèrent aucun doute. Il était en pleine mer. Ataroa eut beau crier, protester, il savait qu'il s'était fait prendre au piège comme tant d'autres avant lui et qu'il n'avait plus qu'à accepter le mauvais sort qui l'attendait. Qui sait, peut-être ferait-il fortune avec les peaux de chèvre, mais il n'y croyait guère. Durant 4 mois, Ataroa et ses compagnons chassèrent ces animaux qui étaient nombreux, accumulant leur cuir. Ils se contentaient pour toute nourriture de la viande de ces quadrupèdes et pour boisson de l'eau au goût saumâtre de leur seule source. 4 mois plus tard, le fantôme revint mouillé dans la baie. Son équipage chargea la cargaison de peaux. Le capitaine en paya le prix à chacun des 6 hommes, mais refusa de les embarquer, sous prétexte qu'il n'avait pas pu leur trouver de remplaçant. Ataroa sonna le capitaine de les prendre à son bord, mais lorsqu'il le menaça de le dénoncer comme trafiquant d'esclaves, il ne reçut pour toute réponse qu'un gros éclat de rire. Désespérés, les malheureux virent une nouvelle fois le voilier disparaître à l'horizon. Combien de mois encore allait-il devoir rester sur cet îlot perdu au milieu de l'océan, devenu une prison, à chasser les chèvres? Quand reverrait-il leur famille? Il fallait trouver du secours, mais l'île la plus proche était Nuku'iwa, à plus d'une centaine de kilomètres. Ataroa déclara à ses compagnons qu'il était prêt à tenter l'aventure et à rejoindre cette île sur une pirogue. Encore fallait-il en construire une. Le jeune Tahitien était un matelot expérimenté, mais il avait appris son métier sur de grands bateaux, et monter au sommet d'un mât pour larguer des voiles et courir dans les haubans ne lui était guère utile ici. L'un de ses compagnons se nommait Tetua. Il était le plus âgé d'entre eux. On se moquait gentiment de sa vue basse et de sa lenteur, mais il s'avéra pourtant d'une aide inattendue, car en vieux pêcheur, il possédait un savoir que les plus jeunes avaient perdu. Il savait, lui, fabriquer une pirogue et la conduire. Il fut donc décidé d'en construire une à balancier, capable d'emmener deux personnes et leur ravitaillement. Ils s'attelèrent tous ensemble joyeusement à la tâche. Et grâce au conseil avisé de Tetua, la pirogue fut achevée en moins d'un mois. Ce fut bientôt le jour du départ. Ataroa et le vieux pêcheur embarquèrent après avoir étreint leurs compagnons. La voile fut brisée et portée par la brise de terre, ils prirent le large. C'était la première fois qu'Ataroa se risquait en pleine mer sur une si petite embarcation. Au large, la houle était forte et il lui semblait que les vagues allaient à chaque instant engloutir le fragile esquif. Aussi était-il trop heureux de savoir que Tetua tenait la barre d'une main ferme à l'arrière de la pirogue. Ils étaient partis au crépuscule. La nuit ne tarda pas à tomber et il fut convenu qu'Ataroa dormirait le premier. Lorsque le jeune homme se réveilla, c'était le petit matin. Ataroa se sentit un peu honteux d'avoir dormi si longtemps, en laissant le vieux pêcheur tenir la barre toute la nuit. Il voulut se glisser dans l'eau pour aller prendre la place de Tetua, mais celui-ci lui intima de se rasseoir. Puis, se saisissant d'une des peaux de chèvre qu'ils avaient embarquée avec eux, il la jeta à la mer. C'est alors qu'un énorme requin qui se trouvait dans leur sillage se précipita sur la peau de chèvre, l'engloutit aussitôt avant de disparaître dans les profondeurs. Ataroa l'avait échappé belle. Tetua fit signe au jeune homme que la voie était libre. Celui-ci, peu rassuré, sauta à l'eau, longea le plus vite qu'il put la pirogue avant de remonter à l'arrière, tandis que le vieux pêcheur se glissait vers l'avant. La matinée se passa sans autre incident. Dans l'après-midi, le vent tomba et ils furent obligés de ramer jusqu'à la tombée de la nuit. Soudain, le ciel se couvrit de gros nuages noirs, annonçant le grain violent qui allait s'abattre sur eux. Ils durent amener précipitamment la voile. Il fallait maintenir la pirogue face aux vagues pour ne pas chavirer. Il semblait impossible que les deux hommes y parviennent en pagayant des heures durant au milieu des éléments déchaînés. Tetua profita d'une brève accalmie pour attacher plusieurs peaux de chèvre ensemble. Il accrocha ce sac improvisé à un filin qu'il amarra à la proue de la pirogue avant de le jeter à la mer. Le sac roula et la pirogue pivota autour de cette ancre improvisée, se plaçant seule face à la houle. Tetua était vraiment un marin accompli. Ataroa était rempli d'admiration et regrettait de ne pas avoir prêté attention aux propos des vieux pêcheurs de son village qui devaient eux aussi posséder un grand savoir. Au milieu de la nuit, la tempête se calma enfin. Le vent avait chassé les nuages. Tetua décida de prendre un peu de repos et confia la barre à Ataroa. Il lui demanda de suivre jusqu'au petit matin une étoile bleutée qui brillait au-dessus de l'horizon. Lorsque le soleil se leva, Tetua reprit la barre. La mer était belle, le souffle léger de l'Alizé gonflait la voile. Le vieil homme désigna tout joyeux un groupe de dauphins qui se dirigeaient vers eux. Il siffla, battit des mains et aussitôt ces animaux escortèrent la pirogue. Ils bondissaient hors de l'eau en poussant des petits cris, comme pour saluer le vieux pêcheur. Ataroa regardait, émerveillé, le ballet des dauphins, en se demandant si son ami n'était pas un peu magicien. Amusé, Tetua lui promit une autre surprise avant le soir. Quelle ne fut pas la stupeur du jeune homme en découvrant au crépuscule la silhouette d'une montagne qui se découpait devant le soleil couchant. Devant eux surgissait Nuku'iwa. Ils touchaient enfin au but. Les deux amis débarquèrent le lendemain matin sur l'île et mirent aussitôt tout en œuvre pour qu'un navire aille sauver leurs quatre compagnons abandonnés sur Iao. Rentré à Tahiti, Aurora n'oublia jamais Tetua. Il passait désormais beaucoup de temps avec les vieux pêcheurs du port, écoutant inlassablement leurs histoires, et ne se privant pas de raconter son aventure à qui voulait l'entendre. C'est ainsi qu'elle est parvenue jusqu'à nous.